Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 17 janvier 2009. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR, cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la série britannique que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Bernard Minet, bonjour.
Bonjour les amis, alors comment s'appelle votre association ?
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum d'Astrich et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, merci de votre écoute pour ce supplément week-end numéro... Oula, non, j'osais pas imaginer, il y a marqué 184 sur notre conducteur.
Apparemment, oui.
Aïe, mais qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Eh bien, ce qui nous attend pour la suite, d'abord, c'est une émission avant Angoulême la semaine prochaine, ensuite une émission après Angoulême le 8 février et une émission à Angoulême le 1er février. Ça, c'est une première, donc, puisqu'on sera vraiment en direct en intégrale cette fois-ci et avec un son qu'on espère qui sera de bonne qualité. Ceci dit, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qui vont se dérouler en ville dès la semaine prochaine, puisqu'il y a le festival du livre Jeunesse Midi-Pyrénées, la septième édition donc de ce festival jeunesse qui aura lieu le 24 et le 25 janvier prochain. C'est à Saint-Aurens que cela aura lieu. L'entrée est libre et gratuite, c'est de 10h à 20h, du moins 20h pour samedi, 19h le dimanche. Et il y a plein de choses intéressantes. D'abord, c'est éclaté entre plusieurs lieux à Saint-Aurens, à la salle du Lauragais, à la maison de la petite enfance, maison des aînés, espace jeune et au lycée pour les journées pro. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ceux qui y participent. On y retrouve des auteurs, des scénaristes comme Jacques Aizan, Gilles Bach, qui est un poète, Brigitte Carrère, Michel Cosem, qui est auteur, Patrick Goulesque, H. Tonton, Jacques Lerouge, Marne Guessant, Mathieu Roussel, Sarah, Stéphane Sénégas et Zouk, qui sont tous des illustrateurs qui ont tous fait soit de la bande dessinée soit l'illustration jeunesse. Donc ce sera justement intéressant d'aller les voir avec les mômes et tout ça. C'est une très très bonne sortie. Il y aura aussi des débats sur l'image dans l'album, ou encore peut-on faire des albums pour la bande dessinée, la littérature enfantine pour les déficients visuels, et aussi des petites événementielles, je veux dire, du spectacle live avec Les Livres et Moi, avec la compagnie Rends-toi compte, qui est un spectacle de contes. Il y aura aussi du jonglage, il y aura des spectacles de contes traditionnels africains disponibles pour les enfants à partir de 3 ans, et même des contes basés sur des jeux de doigts à jouer avec votre les enfants pour après leur réapprendre justement tout le conte, etc. C'est-à-dire on apprend à être conteur avec les doigts. Ça, je trouve que c'est une très belle initiative. C'est le conto bébé, c'est à 16h30 le dimanche, à mon avis ce sera couru. Plus d'informations donc sur le site du Festival du Livre Jeunesse, et pour cela c'est très simple, vous allez sur le supplément week-end, supplementweekend.fr, et vous allez directement dans les liens nos chroniques. On l'a mis en lien directement. Il n'y a pas que ça, là, à partir du 23 jusqu'au 8 janvier, c'est le Festival des Cultures d'Asie, premier du nom, avec l'association Chin Chin. Ça n'est pas exclusivement basé autour de la Chine.
C'est pas sur des lunettes. Hein.
C'est... J'aurais dû m'en douter. Mais loin de là, au contraire, puisqu'il y a plein de choses intéressantes. Il y a des projections, des débats.
Oui, il y a un débat
à table ronde. C'est à Thomas qui j'ai passé donc le programme pour voir ça.
Alors il y a une table ronde sur les mangas, la BD asiatique et BD occidentale, quelles influences réciproques, avec Sébastien Langevin, journaliste spécialiste du manga que nous avons reçu deux fois dans cette émission.
Les auteurs, on salue quand même.
Oui, les auteurs Gian et Gianni des éditions de Chaopan, Tony Valente des éditions Delcourt et le libraire Julien Mzalag de Album. pour un débat public, et ça c'est au Centre culturel Bellegarde. Il y a aussi un panorama de cinéma de Hong Kong qui sera diffusé à la Cinémathèque, donc il y aura les projections d'Il était une fois en Chine 1 et 2 de Tsui Hark, The Killer de John Woo, L'Hirondelle d'Or de King Woo, Center Stage de Stanley Kwan avec Maggie Chung, PTU de Johnny To que nous avons chroniqué sur cette antenne, et ainsi que Made in Hong Kong de Fruit Chan, présenté par Isabelle Frilé, et Chunking Express de Wong Kar-wai, ainsi que La Rage du Tigre de Chang Chien. Donc
c'est du classique, hein,
du gros classique, ouais. Que tout bon fan de cinéma de Hong Kong se doit déjà de posséder dans sa vidéothèque, mais ça fait pas de mal de le voir sur grand écran. On a aussi La Nuit du Manga, ce qui devrait pas être s'appeler La Nuit du Manga puisqu'on c'est la nuit de la Japanime plutôt, avec la diffusion de Spriggan, le film de Kawasaki produit par Otomo. Il y a Qui est la petite peste de Takahata, Millennium Actress de Satoshi Kon, Ghost in the Shell Standalone Complex, donc c'est la série,
c'est le remontage,
oui, le remontage
résumé l'OAV en fait de la série.
À partir de la série, oui.
Voilà.
Il y a également Paprika de Satoshi Kon, Mes voisins les Yamada, Amer Béton, donc du lourd. Et donc voilà, c'est le programme des réjouissances autour du manga, de la Japanime et du cinéma hongkongais.
Donc plus d'informations là aussi sur chinchin.com qui est donc le site, et on a stocké, donc déjà les informations sont disponibles, vous allez sur le site internet de la radio supplementweekend.fr, vous allez dans les chroniques, on fout des liens parfois, et justement on les a mis ce matin, voilà, comme ça vous pourrez les consulter en temps réel. Fait des efforts cette fois-ci, hein. T'as vu, ouais, c'est magnifique.
C'est fou.
Deux séances de dédicaces qui sont programmées, pas forcément en rapport, je vais dire. Didier Poli pour L'Enfant de l'Orage, c'est vendredi 30 janvier, c'est à la librairie Album, c'est dans 15 jours, vous avez un peu le temps. Et Guetals, Ceci est mon corps, c'est le samedi, c'est à la librairie Album. Nous, on fera la couverture peut-être de Made in Asia en fonction de nos disponibilités, et normalement il y aura peut-être une petite chronique Festival du Livre Jeunesse Mini-Pyrénées, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on aura le temps de le faire, puisque la semaine suivante on sera donc au Festival d'Angoulême. On va voir, on va essayer de trouver une astuce, peut-être la couverture le jour même, je ne sais pas, on va se débrouiller, ce serait dommage de passer à côté, là aussi le programme est alléchant. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, mais pas sur la zone habituelle de radiation de FMR, c'est-à-dire sur la région de Toulouse, ne vous inquiétez pas, on relève aussi des bons trucs des fois et on fait suivre, et n'hésitez pas à nous en faire part. Du sport s'est laissé surprendre par deux disparitions. La première d'entre elles est de son programme télé, la seconde d'entre elles est ses lunettes. C'est pour ça qu'il est un petit peu en retard. Et que normalement, justement, il va faire ses deux chroniques nécrologiques tout à l'heure. Mais il n'y a pas que ça, figurez-vous, dans le supplément week-end. Aujourd'hui, on vous a aussi préparé quelque chose de spiritueux ou de spirituel, je ne sais quoi dire, mais c'est une adaptation au cinéma par Frank Miller qui faisait grincer des dents rien qu'à la programmation. Qu'est-ce qui fait grincer des dents d'ailleurs en adaptation cinéma américaine d'une œuvre, mais cette fois-ci pas d'une bande dessinée, mais de l'animation. Il s'agit ni plus ni moins de Cowboy Bebop, dont on est absolument fan, aussi bien pour la programmation musicale que pour l'univers qui a été fait, puisque on a appris hier avec consternation et...
Néo, tu es l'élu.
Oui, malheureusement, il s'agit bien de Kenny Reeves qui devrait jouer...
Spike Spiegel.
Alors... est-ce qu'il a la gueule de l'emploi? Je ne sais pas. Il a peut-être l'entraînement karaté qui va avec. L'air de chien battu, il va falloir qu'il apprenne une expression, ce qui en soi va être très difficile. Mais en attendant, tout le monde se pose la question, c'est qui va jouer le rôle de Fane Valentine?
Les fantasmes des mâles en rut.
Qu'est-ce que tu me traites là?
J'ai dit au pluriel en général.
Ah, bon, d'accord, ok, j'ai eu peur. Mais on va commencer les chroniques bande dessinée avec un avertissement, puisque les deux premières chroniques ne sont pas des livres spécialement à conseiller au moins de 16 ans, je veux dire 14, hein, je ne sais pas quel macaron je vais mettre. La première d'entre elles, c'est une série scénarisée par Alejandro Jodorowsky, dessinée par Milo Manara. Ah là, j'ai dit Jodorowsky et j'ai dit Manara. À partir de là, tout le monde sait qu'il faut éloigner les enfants du poste. Désolé pour ceux qui nous écoutent, regardant les mômes. Et surtout après les chroniques sur la littérature jeunesse. Borgia, le troisième tome de la série s'appelle Les Flammes du Bûcher, vient de sortir dans la collection chez Drugstore, donc la reprise, je vais dire, de la collection éditoriale de Albin Michel. Alors le fait que ça soit justement que je parle d'Albin Michel, donc qui a été repris par Drugstore, ça n'est quand même pas un hasard. Il faut savoir que Milo Manara a toujours eu deux carrières artistiques. L'une d'entre elles a été portée essentiellement sur le cul et sortie donc chez Albin Michel, et donc maintenant le catalogue est dans la maison d'édition Drugstore qui fait partie du groupe Glénat. Et d'un autre côté, il a fait des œuvres un petit peu plus culturelles, même largement plus, on en parlera tout à l'heure, Giuseppe Bergman, Un été indien, Voyage à Touloum... Et ça, ça sort plutôt chez Casterman. Là, on est entre les deux. Jodorowsky, c'est quelqu'un qui n'est pas à présenter. Il était le créateur de l'Incal. Il est aussi réalisateur avec La Montagne Sacrée. Il a aussi été question, au bout d'un moment, d'une adaptation du roman Dune de Frank Herbert par ses soins. Et là, on est littéralement dans un tout autre décor. La famille des Borgia, qui donne le nom à cette série, c'est elle qui a amené à être le phare de la civilisation chrétienne, reconnue pour son intelligence, sa vertu et sa foi. Alfonso Borgia, par exemple, devenu le pape Calixte III, appelle son neveu Rodrigo Borgia et le nomme cardinal. Le cardinal Alfonso, à peine nommé, se marie et aura 4 enfants. Et malgré cela, il deviendra le pape Alexandre VI, chef de l'église représentant le Dieu et Jésus-Christ en ce bas monde. De ses enfants, une fille qui chérit plus que tout, puisqu'il aura des relations incestueuses avec elle, suite à la révélation de leurs sentiments communs lors d'une petite fête menée au Vatican pour célébrer Pâques. Enfin, moi j'appelle ça une partouze. Le scandale aurait pu en rester là si le pape n'aimait pas aussi son fils César. Ça en fait une chouette famille, avec que des relations consanguines et tout ça, ça ne déconne pas. Et pourtant c'est historique, s'il vous plaît. Dans un cynisme impressionnant de la haute politique, on pourrait qualifier de machiavélique. Et à raison justement, puisque Nicolas Machiavel traîne dans les couloirs du pouvoir à Rome à ce moment-là et prendra César Borgia comme modèle dans son roman « Le Prince ». Alexandre VI est insatiable sexuellement, puisqu'il ira chercher sa nièce Julia pour la sauter en enfonçant les portes du couvent où elle était recluse. Au point où on en est, le pape, il n'est pas un scandale près. Un pape dépravé, une Italie divisée entre plusieurs royaumes guerroyants et qui malgré tout rayonne dans toute l'Europe de son savoir et de ses arts. Malgré la puissance politique et supposée divine de son chef, l'insolente église doit néanmoins faire face à des révoltes au sein même de ses rangs. Et oui, la famille des Borgia, c'est le côté le plus scandaleux de l'Italie de la fin du XVe siècle. Alors qu'un nouveau continent allait être découvert et que la religion chrétienne allait enfin refluer l'invasion maure de l'Espagne, pour les Balkans, ce fut quand même un poil plus tardif. On peut pas dire qu'ils ont aidé Rome à briller. Le jour où le pape ordonne à son fils César cardinal... La fête tournera en débandade car un invité mourra de la peste, puis un autre, une épidémie foudroyante, une fuite éperdue, panique, et malgré tout, la famille maudite ne vacillera même pas du pouvoir. Les Borgia, comment dire, c'est tout un roman. Rien qu'à ce que je vous ai raconté, il n'y a pas une once de contre-vérité, ça n'est que de l'histoire. Et rien que pour cela, on imagine que ça doit faire les riches heures de Jacques Chancel, de Jacques Pradel, tous ceux qui racontent à la radio ces histoires. Les histoires dépravées comme ça, ça fait de l'audience, et tout ce que vous voulez, et ça vend des bouquins. Étonnamment, Les Borgia ont amené pas mal aux arts en tant que mécènes, mais il n'y a pas eu un seul historien pour les défendre. Et je veux dire, Jodo et Mianara, il faut rien à côté de cela pour les défendre dans la série Borgia. Indépendamment des histoires de Cookie Dessine, Mianara, justement, je disais qu'il était injustement méconnu pour ses œuvres plus sérieuses, comme la suite Giuseppe Bergman, qui est sorti chez Casterman, Un été indien, qui a été scénarisé par Hugo Pratt, ou Voyage à Touloum avec Federico Fellini, s'il vous plaît. Et la série Borgia est justement à la croisée entre les deux. Jodorowsky, que l'on connaît plutôt comme scénariste de fantasy ou de science-fiction, voire réalisateur de cinéma, se donne ici à cœur joie dans cette Italie dépravée mais éternelle pour ses arts, dans une série passionnante et un domaine qu'il adore. Les dynasties complètement foireuses et dépravées. Alors Thomas est en train d'ouvrir le bouquin et je crois que là, ça surprend un peu hein, le Mianara.
Ah bah non, si on connaît Mianara, c'est justement, on n'est pas surpris.
Parce que là, justement, quoi, il y a du dessin et tout ça, c'est très, c'est là où je dis qu'il y a une différence entre ce qu'il fait, entre les œuvres, je vais dire, sérieuses et ses œuvres de BD, et érotiques. Les œuvres de BD érotiques sont pas des œuvres extrêmement travaillées graphiquement. Enfin, si, mais je veux dire, il va pas mettre beaucoup de boulot dans les décors, dans la colorisation et tout ça. Là, on y est à fond. C'est vraiment un bonheur, c'est un plaisir à lire. Et en même temps, bon, ça envoie, hein, il y a des plans à trois et tout le reste. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une image du roi de France de l'époque qui est assez rigolote, puisque c'était un nain difforme et bossu, et malgré tout, on pense à certaines choses, mais bon.
Et ça c'est le tome 3
C'est le tome 3.
Est-ce que tu as lu les deux premiers?
Je veux dire qu'en ce moment, je n'ai pas trop lu. Mais comme je connais plus ou moins l'histoire des Borgia, justement, puisque c'est un vrai plaisir à découvrir l'histoire avec eux, on imagine le traitement qu'y a donné Jodorowsky quand même dedans. Donc je pense que là, de ce côté-là, il aurait du mal à trop romancer, il n'y a même pas besoin. Ruzig au scénario, David Efuno et Paolo Armitano au dessin, c'est Loudin, c'est dans la collection Hanté chez Soleil, une collection qui a été lancée par Christophe Beck sur justement les lieux les plus hantés de l'histoire, ces endroits où on ne va que parce qu'ils sont chargés d'une histoire, à tel point qu'ils auraient des fantômes. À peine la peste dissipée, c'est encore l'esprit du stupre et du lucre qui va fortement arranger la réputation de l'Église. Mais un siècle plus tard, l'Europe a libéré le marché de la religion chrétienne et fait éclater le monopole. Humour. Suite justement au scandale qui entachèrent l'Église au XVe siècle, Martin Luther profita de ce terreau de scandale pour fonder le protestantisme qui réfuta le rôle du pape. Ce qui mena l'Europe dans deux siècles de guerre de religion, qui furent surtout très violentes en France. En 1632, la France est reprise en main par le cardinal de Richelieu. Mais l'équilibre entre les catholiques et les protestants est encore fragile. Et lui, il représente plutôt le pouvoir catholique, par le fait que, ben justement, son éminence grise est plutôt dans le... je vais dire, dans la hiérarchie de l'Église catholique. Il a besoin d'inverser la tendance. La petite ville de Loudun, qui est dans l'actuelle Poitou-Charentes, fut un théâtre important de la guerre de religion. Et justement, à majorité protestante. Mais son curé est catholique. Urbain Grandi est un curé respecté de ses ouailles, car il n'a pas fui au moment de la peste, et faisant tout son possible pour aider les malheureux. Il a juste un petit loisir, comme on dit. Il est libertin et il adore culbuter la femme mariée ou non, d'ailleurs. Et là, ce charmant bourg deviendra le terrain de la lutte entre le bien et le mal, en la personne d'un diable parfaitement, particulièrement malfaisant. Un démon vicieux, car il s'est emparé du corps de sœur Louise de Barbezier, supérieure du couvent des Ursulines, que l'on dit fort jolie. Un démon qui lui fait dire des atrocités sans nom à en faire rougir un charretier. Le chanoine se trouve un petit peu coincé, je vais dire, dans cette affaire. Et doit faire appel en catimini à un exorciste pour faire fuir cette âme damnée, conjurer le mauvais sort, et surtout éviter que la populace, le vulgus pecus, ne soit au courant de cette affaire. Et si finalement tout cela n'était que de la politique avec des aveux arrachés par la torture, un peu comme Guantanamo maintenant, et si le chanoine profitait pour de la situation pour se débarrasser du curé Urbain Grandier qui se montre vraiment trop gênant dans ses libertés, des libertés qu'il prend avec sa nièce, et si finalement Richelieu ne va pas en profiter pour justement dire aux protestants, vous voyez, il n'y a pas d'impunité non plus pour les catholiques. Une histoire tragique bâtie sur les faits réels, documentée, servie par un dessin riche, texturé, dense, dont de superbes couleurs directes. L'album est pour lecteur averti, mais vaut autant le coup d'œil que celui de Jodo et Manara, et rien que le fait que je fasse à comparaison avec ces deux auteurs est un gage de qualité d'exécution. L'histoire de la malédiction de Loudun est passionnante, révélatrice d'une époque obscure où la religion dictait la politique des États à son profit personnel. Et surtout, ne vous laissez pas avoir sur le dessin, parce que justement, il y a un peu la légende dorée dans ce que raconte le dessin, c'est-à-dire on sent vraiment qu'il y a un glissement dans l'album au bout d'un moment. C'est à vous de le découvrir. C'est vraiment un bouquin assez étonnant. Davide Fourno, Paolo Armitani, Loudun, sur un scénario de Hervé Roussin, c'est sorti chez Soleil dans la collection Hantée. Thomas, a-t-il quelque chose à rajouter pour sa défense ?
Non, je serais bien curieux de lire ces deux bouquins, en fait. Parce que autant au niveau graphisme que l'histoire, ça a l'air bien prenant, donc ouais. Tu m'as convaincu, Xavier.
Ça me fait plaisir. À toi de me convaincre pour le tout à fait autre chose, oh, puisqu'on part... On reste dans l'histoire, excuse-moi.
Oui, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de mal, là.
Je t'en prie, vas-y, présente le bouquin que tu nous as amené face à la caméra.
Moutafoukaz.
Ah merde, j'ai plus le truc à effet, alors je vais faire la voix.
It came from the moon.
Voilà, Moutafoukaz tome 0. Donc ça se passe avant, bien sûr, les tomes 1 et 2 dont nous vous avons déjà parlé. Et c'est un album dans 16 pages sont en 3D. Haha.
Alors de la 3D à l'ancienne, comme dans les années 50.
De la 3D avec un verre rouge et un verre vert qu'il faut mettre. Il faut prendre la peine d'inverser les lunettes parce qu'il y a eu un bug dans la fabrication aussi des lunettes en plastique. Mais bon, ça c'est pas grave.
Ouais, hein. Et après, la peine de se faire mal à la tête. Hein, c'est pas super pratique ce truc.
Alors, en 1935, dans la jungle du Guatemala, un groupe de catcheurs mexicains cherche un mystérieux objet. Le Chanara, l'un des 13 crânes de cristal susceptibles de les renseigner sur les origines de l'humanité. Tiens, des crânes de cristal dans la jungle, ça rappelle quelque chose. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde et même au-delà, les astronautes du régime nazi se posent sur la Lune et rencontrent des mystérieux Atlantes. Qui va bien pouvoir arrêter les troupes d'Hitler maintenant qu'ils ont enfin rencontré les envoyés d'un peuple dont ils se prétendent les descendants ? Les luchadores, peut-être, au cours d'un combat de catch post-olympique qui les opposera aux terribles jumeaux de l'apocalypse allemand. Mystère. Alors, c'est un album, contrairement aux deux autres qui ont été dessinés et scénarisés par le seul Run, celui-ci, It Came From The Moon, est dessiné à quatre mains, puisque Run s'est adjoint à la collaboration de Big Argo, dont le style très rétro convient bien à cet album se déroulant dans les années 30. Alors, Ron nous a expliqué pourquoi, hein, c'est-à-dire qu'il a travaillé sur la série Wakfu pour Ankama, et il a passé, c'est autant de mois de travail qu'il n'a pas passé sur le Moutafoukaz, donc comme il ne voulait pas que le Moutafoukaz sorte trop longtemps après le tome 2, donc il a décidé de faire 50-50 avec son pote Bicargo, et du coup ils ont fait un album à deux. Et on peut dire que c'est franchement une réussite graphique, puisque bon, quand on a vu les premiers Widir comme quoi serait fait à deux personnes, bon, tu dis, bon, finalement, qui c'est qui va s'occuper de quoi. Et là finalement tu vois que Bicargo s'occupe plus de la partie exposition, c'est plus narratif, alors que Run se charge des bastons de catch. Tiens Xavier, je te le remets entre les mains.
Ouais, alors ce qu'il faut signaler, c'est le soin qui est apporté dans leur production par Ankama sur certains détails, et notamment la couverture qui est impressionnante.
Oui, avec un rendu vieux livre.
Voilà, il y a même le prix en francs à l'arrière, avec la vieille étiquette là pour ceux qui allaient acheter les bouquins à cette époque-là. C'est un bonheur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté bibliophile, le côté aventure et tout ça, le côté merveilleux. Je veux dire, c'est là où c'est le livre est un médium, ce qui est énorme quand même pour une société qui a démarré plutôt par le multimédia. Eux, ils sont pour la matérialisation, je veux dire, des histoires.
Ah bah oui, à tel point que sur la Ankama Convention, ils avaient fait un siège avec plein d'albums de Mutafukas Tom Zero collés pour qu'on puisse frimer avec le logo label 619 derrière, le label créé par Run. Donc justement, le style rétro, c'est un style fait de trame avec un style vraiment assez difficile à décrire au niveau du son, mais en tout cas il faut le voir, c'est Bicargo, un style très particulier. Bah alors ça peut rebuter, mais au bout de quelques pages on commence à s'y faire. Donc après il y a plein de gags évidemment, donc c'est un peu l'histoire. Bon, ils ont essayé d'être le plus proche de l'histoire possible, même s'ils font beaucoup de digressions. Par exemple quand ils font
c'est de l'histoire fiction, hein, de toute façon.
Voilà. Ils font des sauts dans l'histoire, donc ils racontent juste par le narratif certains passages qui ne dessinent pas. Et donc à un moment donné, il y a les États-Unis qui entrent en guerre, il y a marqué Here comes the new challenger. Qui rappelle évidemment les textes écrits dans
les
jeux vidéo
d'arcade,
Street Fighter,
voilà, quand il y a une pièce
Player 2 qui entre en jeu. Donc voilà, c'est un album. Bon, évidemment il y a aussi d'autres gags à la fin, il y a le courrier des lecteurs, il y a les bonus graphiques inévitables, la 3D, c'est rigolo de souligner, c'est John qui s'en est occupé. Donc si vous êtes fan de Malekith, ce nom vous dira peut-être quelque chose, c'est le fameux Viking qu'on peut apercevoir dans les albums de Malky, c'est lui qui s'est occupé de la 3D. Donc voilà. Et bon voilà, Mutafukas tome 0, c'est vraiment un enchantement, c'est assez différent évidemment des tomes 1 et 2 qui racontaient plutôt les aventures centrées sur Vince et Angelino. Là ça raconte le passé, pourquoi il y a les fameux monstres, pourquoi est-ce que ce sont les nazis qui sont entrés en contact avec eux, etc. Pourquoi est-ce qu'on voit Adolf Hitler en tant que monstrueux alien dans le tome 2, qu'en est-il exactement? Vous aurez toutes les réponses dans ce tome 0 de Mutafukas It Came From The Moon, dessiné par Bicargo et Run, édité chez Ankama.
Midi 32 minutes 50 secondes sur la poubelle radio 89.1 MHz. Pas de pause publicité, puisque vous savez donc que désormais la publicité a été rachetée. On n'a pas le droit d'en passer. Mais on peut se passer une pause musicale, tranquille et cool. Sébastien Tellier, Banti, extrait de l'album Sexuality.
Oh,
Le cinéma vous est présenté en Dolby Mono Surround, Dolby Stereo Surround par Thomas, les bonnes vieilles habitudes.
Eh oui, le progrès.
Voilà.
Alors, on va parler maintenant de l'adaptation du Spirit, la bande dessinée de Will Eisner par Frank Miller. C'est un film qui comprend au casting Gabriel Macht, Samuel Jackson, Scarlett Johansson, Eva Mendes. Oh là 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 là. L'infâme Octopus veut mettre la main sur l'amphore contenant le sang du mythique Héraclès et le justicier Spirit va tout faire pour l'en empêcher. Mais sans compter sur la vénéneuse Sansaref, amourette d'enfance du Spirit, est toujours attirée par le bling-bling, bien décidée à s'approprier la toison d'or de Jason aux mains d'Octopus. Alors, dire que ce film est déconcertant, c'est franchement un pléonasme. Parce que là, je sais pas trop quoi penser. D'habitude, j'aime bien les films un peu audacieux, là, qui sont pas trop rangeables dans des catégories, mais là, déjà le traitement graphique. Alors bon, forcément, tout le monde va penser à Sin City. C'est Frank Miller qui a fait la BD, c'est Frank Miller qui a co-réalisé Sin City. Après c'est normal. Après, sauf que là, c'est une BD de Will Eisner. Alors moi, je le dis carrément d'office. J'ai pas lu la BD de Eisner. J'ai juste vu quelques planches dans L'Art Invisible que Eisner avait écrit, mais je connais pas la BD, alors je sais pas quel est le ton, si c'est plutôt
la
comique.
La BD, justement, c'était... Alors, il faut remettre dans le contexte, puisque le Spirit est une œuvre de commande qui a été faite dans les années 40 pour contrer la montée de Detective Comics, dans lequel sortaient Superman et Batman. Et on demande à Eisner de faire un super-héros, enfin un personnage masqué détective. Et c'est là où il est très malin. Primo, il arrive à faire en sorte que le personnage lui appartient, c'est-à-dire que les droits lui appartiendront définitivement. La deuxième chose, c'est qu'il va faire un personnage sans pouvoirs spéciaux. Mais le problème, c'est qu'il est censé être...
un super-héros.
Un super-héros. Et il a dit, ah mais oui, mais il a un masque. Voilà, c'est tout simplement le loup du Spirit vient de là. Donc, en fait, c'est un mélange à la fois d'histoires de détectives. En même temps, il y a des histoires avec des belles vénéneuses et tout. Donc, il y a des histoires d'amour.
Ouais,
il y a
beaucoup,
pas mal d'humour aussi.
Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'ironie, on va dire, plutôt. Quoi. Il y a des,
C'est une bande dessinée adulte. C'est la première du genre.
C'est vraiment adulte, mais en plus avec des petits sauts dans le temps, des réalités qui sont un petit peu subjectives, on va dire, des passages d'une scène à l'autre, très très audacieux pour l'époque, hein. C'était pas un super héros, quoi, The Spirit, c'est pas un super héros, quoi, mais en fait,
alors dans la BD,
ce qui était un petit peu surnaturel, quoi, c'était l'action qui se déroulait dans les épisodes, parce que des fois c'était un peu surréaliste carrément, quoi. On passait du coq à l'âne sans savoir vraiment le pourquoi de la chose et tout, et donc c'est pour ça que c'était quand même très très élaboré, et que c'était vraiment au départ la bête de Will Eisner, c'était vraiment son esprit, sa façon de voir un petit peu les choses, et justement de jouer avec la commande qui lui avait été passée, quoi. D'accord. De dire c'est quand même un super héros, parce que regardez tout ce qu'il arrive à faire et tout, et c'est vrai que c'était assez dans le trip super héros, ça collait assez, quoi. Mais le traitement était complètement différent et très très personnel, hein, de la part
d'Eisner. Surtout que Will Eisner qui a travaillé très vite, hein, il a très vite embauché une équipe d'assistants au bout d'un an.
Ouais.
Mais il faisait énormément d'expérimentations graphiques, cela soit aussi bien sur des expérimentations scénaristiques complètement délirante, du style je te fais voyager de pays en passant une porte ou des trucs comme ça, que d'autres expériences graphiques complètement délirantes qui a mené au pop art et tout ça. Là-dessus, il y a vraiment ce côté-là. On est dans les années 40, une série qu'il a fait jusque dans les années 50 et qu'il a repris dans les années 60-70 pour un petit éditeur indépendant. Donc il y a vraiment deux périodes différentes de Will Eisner là-dessus. Après, le personnage reste un personnage fantastique, puisqu'il est censé être revenu d'entre les morts, et c'est pour ça que
qu'on l'appelle le Spirit. Ouais.
Voilà. Pardon Thomas, tu peux reprendre.
Oui, je suis détroulé par JB qui essaie les lunettes en 3D. JB a compris que les lunettes en 3D devaient être retournées. Voilà, il y a un sens. Et voilà. Alors, on va parler maintenant du film, hein, Spirit, puisqu'on a bien parlé de la BD. Donc, déjà, on va parler du traitement graphique. Alors, c'était Il se rapproche justement des aplats noirs et blancs fortement contrastés des BD. Par contre, ce traitement est un peu particulier puisque dans le film, le traitement peut varier d'une scène à l'autre. À un moment donné, il va avoir sa cravate rouge super vif avec sans aucun ombre portée après. Dans une scène après, il va avoir la cravate rouge telle qu'elle a été prise sur le vif par la caméra, donc elle va être un peu terne. Avec dans le même plan, il va y avoir du sang rouge vif. Alors tu dis, est-ce qu'il veut porter l'attention sur certains éléments après au risque de les passer sous silence après? Il y a aussi un traitement sur le dessous des chaussures en blanc. Alors ça va, quand c'est des gros plans, tu dis bon allez, c'est graphique. Après, quand c'est un traitement où tu vois le dessous blanc fluo mais immaculé, alors que les chaussures c'est juste un petit coin dans le 16-9, mais ouais, un traitement graphique qui peut laisser pantois quand même un peu dubitatif. Après, moi, l'impression que j'ai eue sur le film, c'est que c'est sa différence avec Sin City. Parce que Sin City, tu as vraiment l'impression que c'est plus un film classique. Et Spirit, c'est vraiment un ovni. Tu dis que c'est presque le nouvel album de Frank Miller, quoi. C'est un truc qui passerait bizarrement plus en BD qu'en film, au niveau de l'humour, au niveau de la densité des dialogues. Tu te rends compte que en fait les dialogues, quand on connaît Miller, son goût pour les voix off dans les BD, bah là franchement c'est le quantité de dialogue qui est poussée jusqu'à l'abstraction, quoi. C'est comme musicalité, tu sais, à un moment donné quand t'écoutes les dialogues, c'est n'importe quoi. Ils sont en train de souligner ce qui se passe, ils disent.
C'est dans le style justement des BD de l'époque. Il faut pas oublier que c'est du feuilleton à l'époque et que donc on se moque régulièrement des. Certains se moquent régulièrement de la lourdeur des Black et Mortimer, où fait, voilà, toutes les 4 pages, il est obligé de rappeler ce qui s'est passé dans les pages précédentes, puisque une semaine s'est écoulée, on est un nouveau jeudi dans Pilote.
Ah, mais là, c'est pas explicatif, c'est plutôt des scènes un peu à la Tarantino, sauf que Tarantino, il te balance des anecdotes de partout. Ah oui, Madonna, Superman, machin. Alors que là, c'est vraiment, il développe pendant 5 minutes un truc, tu dis en une phrase, quoi. Et là, c'est marrant parce que c'est là que tu vois les scènes comiques. Les duos par exemple entre Scarlett Johansson et Octopus qui est son boss, ça fait à la fois un duo comique visuel mais aussi dans le texte. Après t'as le goût de Miller par exemple dans Sin City, t'as un duo de personnages à un moment donné qui parle très littéralement langage littéraire en fait, où c'est vachement recherché et tout. Et là t'as un peu le même type d'humour sur les dialogues et les textes, avec les bras droits qui sont tous chauves, avec des t-shirts où il y a marqué leur nom dessus, et t'as des dialogues c'est à mi-chemin entre le décérébré et les personnages qui sont là juste pour faire style comique. C'est assez difficile à décrire, il faut vraiment voir le film pour ça. Les gags, alors là par contre assez dubitatif aussi, tu sais pas trop sur quel pied danser. T'as à un moment donné tu vois que les bras droits sont des espèces de clones, des expériences d'Octopus. À un moment donné, il y a une expérience ratée où t'as un homme-pied. C'est juste un pied qui marche avec juste une tête à la place de la cheville.
Ouais, mais ça, c'est vraiment dans l'esprit de la BD, justement.
Du Spirit. Ouais. D'accord, j'ai ma réponse. On a aussi des gags avec un chat, mais ça, je vous laisse le découvrir par vous-même, juste pour que vous ayez le plaisir d'avoir faire une tête... on sait pas trop comment décrire la tête d'ailleurs, mais voilà. Franchement, je suis allé avec des amis, on s'est tous regardé, mec, c'est quoi ce truc, t'en penses quoi, voilà. Après on va parler un petit peu du casting. Gabriel Macht, il a un rôle caché derrière son loup, il peut pas faire grand chose, il est juste, il se contente juste d'être là. De toute façon, son rôle dans le film, c'est juste presque un faire-valoir, puisqu'il a c'est un spirit qui a aucune personnalité, c'est juste un justicier qui a pas vraiment de. On voit juste son passé, il est pas torturé, après t'as Octopus, Samuel Jackson il en fait mais des tonnes, je crois que c'est le film où il cabotine de plus. On aime ou on déteste, alors c'est comme toujours, hein. Soit c'est la performance d'acteur, soit c'est le gars qui a payé ses impôts, c'est toujours le même discours. Après on va passer au casting féminin, alors là, ça fait plaisir, Miller aime les femmes. Scarlett Johansson.
On l'aurait pas su.
C'est bizarre. Scarlett Johansson, elle a un petit rôle quand même dans le film. Surtout Eva Mendes. Alors là, je dis Eva Mendes. Hein. Alors moi j'avais découvert dans Ghost Rider. Elle a fait quelques autres petits films. Alors là, j'en perds la voix. Eva Mendes, faut la voir dans le film The Spirit. On a quelques plans sympas. Ce qu'on peut retirer du film, c'est un sentiment mitigé hein, entre le mauvais goût et le décalage savoureux. Alors c'est selon. Hein, moi, ça m'a rappelé un peu la tactique qu'avaient adoptée les frères Wachowski sur Speed Racer. Évidemment, en comparant, c'est comparable.
Oui, quand même.
C'est pas du tout la même chose, mais
ça rien qu'à l'air étonné de JB quand tu as dit ça.
C'est pour ça que j'ai précisé juste après. C'est juste l'impression que tu as en sortant. C'est, tu sais pas si c'est du génie incompris ou juste du comique que t'as pas compris, ou alors c'est du mauvais goût où les gars ils se sont plantés. Là, Miller, franchement, j'ai pas compris.
Un futur nanar, tout simplement.
Ouais, voilà.
La définition
du nanar. Ou dans 10 ans, le film sera réhabilité. Oh là là, mais c'était un visionnaire.
Dans les ciné-clubs. Avec Alex Masson qui discuteront avec Jean-Marc Lucas sur devant, avant une projection à la Cinémathèque là-dessus.
Après, le film, il faut pas le voir comme un film d'action où t'en prends pas la mirette parce que l'action est tuée dans l'œuf. Il y a même des dialogues pendant l'action.
Non, mais dans la bande dessinée, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup d'action, voilà. Quoi. C'est pareil, quoi. C'est pas une bande dessinée d'action. C'est pas les polars Hardboiled des très bons à l'époque, Dick Tracy.
C'est plutôt les mouvements
généraux. C'est vraiment du truc du n'importe quoi, pratiquement.
Les mouvements de combat, justement, des fois, sont prétexte à placer un gag dans la BD. C'est là où Will Eisner a été très fort.
C'est exactement ça. Chaque fois qu'il y a un semblant de début d'action, elle est tuée dans l'œuf par un gag complètement n'importe nawak ou tu as une voix off qui va t'expliquer le ridicule de cette scène d'action. Donc tu te dis bon, franchement, vivement qu'elle finisse parce que bon, tu sais de toute façon que ça va servir à rien. Voilà, c'est un film. Si vous voulez pas le voir au cinéma, c'est à voir au moins à la télé en DVD. C'est déconcertant. The Spirit, un film de Frank Miller avec Gabriel Macht, Samuel Jackson, Eva Mendes et Scarlett Johansson.
Et qui, Eva?
Eva Mendes?
Et j'ai pas entendu.
Je sais pas si j'en ai parlé.
Non, je pense
non,
pas.
Non.
C'est qui?
Eva Mendes, c'est une... Voilà, c'est Eva Mendes.
D'accord.
Attends, je vais arrêter de
balayer. La présence au cinéma?
Comment?
T'as pas relevé les...
Si, il est disponible au Gaumont Labège.
Dans les deux Gaumont, en fait. Voilà. Wilson en VO et Labège.
Alors moi, je l'ai vu en VF par choix. C'était une erreur.
C'est parce qu'il aime bien pouvoir garer sa voiture, voilà. Gratuitement, j'ai oublié de préciser. Voilà, donc The Spirit par Frank Miller.
Ah oui, en fait, oui, j'avais oublié de préciser, restez à la fin parce qu'il y a un putain de générique super joli par contre, qui est pas du 300 avec de la profondeur avec After Effects. Là, c'est plutôt de la plat, mais c'est avec les dessins préparatoires de Miller. Sont vraiment les dessins du Spirit, pas du tout de Eisner, sont les dessins finalisés de Miller. Il y a aussi des crowbars pour des essais de storyboard de Miller aussi. Ça, c'est à voir jusqu'au bout parce que même le texte.
Là, il y a un bonus DVD à la projection, quoi.
Oui, t'as même le texte écrit du générique qui est en typo comics aussi. C'est vraiment, c'est vraiment sympa quand t'es dessinateur ou graphiste, ça donne vraiment envie de s'y mettre, quoi.
Pierre Planas et le groupe vous propose une petite berceuse dans le supplément au week-end sur Radio FMR 89.1 MHz.
Un matin d'oubli, une pilule m'est venue, cette berceuse, cette comptine un peu nulle que tu trouveras sûrement curieuse. Tu n'es pas né, tu me tripotes, même pas prévu dans l'année. Je profite un peu de mes potes, tu n'es même pas envisagé. J'ai eu 23 ans en janvier, avoue que ça fait un peu tôt. Je n'ai même pas de métier. Je ne suis pas le père qu'il te faut. Mais si j'écris cette broutille, c'est que je me dis, ça peut le faire. D'écrire une lettre à ma fille avant même d'être père. Tu n'as pas encore de prénom, on n'en a pas parlé avec ta maman. Je t'épargne le sobriquet à la con, je te dis tu, pour l'instant. Déjà c'est complet pour rien dire. Pas une information valable. Avec l'âge, ça ne peut qu'être pire. À 15 ans, tu vas péter un câble. Mmh. simplement te chanter que cette vie est un cadeau. Je voudrais que tu saches en profiter, car c'est ce que l'on a de plus beau.
Pierre Plana, c'est le groupe Berce, son premier album, c'est le premier G. Je vous conseille d'aller voir en concert Primo, parce que c'est assez étonnant de le voir lui avec sa petite guitare et tout autour, eh ben, il a un cœur de violoniste, de synthé, batterie et tout le reste. JB, si t'as rien à dire, bon micro, hein, non, t'as rien à dire. Moi je dirais juste une chose, tu peux t'enfuir, tu peux partir même.
Allez.
Duce, c'est une disparition triste.
Une double. Alors ça va faire comme le syndrome Piaf. Ça va faire pareil. On va se souvenir de l'un mais pas de l'autre, comme Piaf, puisque Cocteau est mort un jour ou deux jours après.
Et tout le monde a oublié Piaf.
Tout le monde a oublié que Cocteau était mort pratiquement le même jour. Quoi. Tu vois, c'est Piaf. On se rappelle la disparition de Piaf, ouais, à l'aise et tout. Quoi. Bon, on va pas préjuger de qui était meilleur que l'autre, qui méritait plus la mémoire collective et tout que l'autre, mais bon, quand même, ça la fout mal un petit peu, quoi, quelque part. Ouais, ils sont deux, donc l'un le 13, l'autre le 14, hein, de la semaine dernière. Le plus vieux, c'est Ricardo Montalbán. Le moins vieux, Patrick McGowan, 8 ans d'écart d'âge. Bon, enfin bon, ils étaient quand même relativement vieux, hein, vu que... Pour Ricardo Montalbán, né Ricardo Gonzalo Pedro Montalbán Merino, tu vois, et je le dis avec l'accent français en plus, quoi. Né à Mexico, donc en novembre 1920, c'est lui qui est mort le 14 janvier dernier, cette semaine, donc, qui a quand même gagné un Emmy Award dans sa carrière en 78, hein, pour le meilleur second rôle, How the West Was Won, mais qui est surtout connu pour une série... Et pour un rôle qui l'a marqué, voire deux, on va dire. Il est connu pour être le père de Spock, Khan, dans le premier Star Trek, et dans La Colère de Khan, le deuxième Star Trek. Le film, hein, bien sûr, ok. Hein, c'est le papa de Spock, hein, c'est ok. Mais surtout parce que c'est Monsieur Rourke dans L'Île Fantastique. Là, voilà. Eh oui, tout s'éclaire. Tout c'est clair, donc aux côtés de Hervé Vilches, hein, la personne à verticalité contrariée, qui lui est décédé il y a vachement plus longtemps, quoi, de toute façon, quoi, hein, Hervé Vilches, donc. Et donc c'est Ricardo Montalbán qui interprétait le rôle de Mr. Rourke de L'Île Fantastique. Alors donc, né en 1920, il commence sa carrière au Mexique, bien entendu, dans les années 40. Et à partir de 43 jusqu'aux années 50-55, ce ne sont que des films mexicains. Et alors, c'est le rôle de Latin Lover, bien sûr. Il avait une bonne gueule quand il était jeune, en plus. Hein. Franchement, tu vois, ça la faisait, quoi. Il a pas dû s'emmerder, peut-être, quoi, à mon avis, quoi. Et ensuite, eh bien, il trouve quelques débouchés pour pouvoir tourner aux États-Unis. Et donc, on le connaît parce que dès les années 60 et au début des années 70, il figure donc dans les deux suites de La Planète des Singes, l'Escape from the Planet of Apes et La Conquête de la Planète des Singes. Et il a fait un nombre incalculable de séries, Chicago pour les plus récentes, Dream One, Murder, She Wrote, c'est-à-dire Arabesque, les Colby Dynasty chez nous, où il est présent dans 48 épisodes, L'Île Fantastique, ça je l'ai cité, un épisode de Columbo, ça c'est obligatoire, un épisode de Hawaii Five-O, quelques épisodes du Virginien dans les années 60, Gunsmoke dans les années 60 aussi, Chaparral, Ironside, c'est-à-dire L'Homme de Fer, Dr. Kildare, là il fait 4 épisodes, un épisode en 61 dans Les Incorruptibles, la version avec Robert Stack bien sûr, et un épisode également au début des années 60 avec Alfred Hitchcock présente. Et pour les plus jeunes qui l'auraient pas maté, qui le connaîtraient pas du tout, même pas dans L'Île Fantastique, qui date quand même un petit peu, hein, ça date du milieu des années 80, et ben on l'a vu également dans Spy Kids 2 et 3 où il joue le rôle du grand-père. Ah oui, c'est lui, c'est lui, et on peut admirer sa voix en version originale. Comment ?
Non, t'es sûr? Non, c'est pas Xbox 2 et 3?
Ouais.
Pour moi, c'est pas lui là.
Si.
D'accord,
ça
ok.
Peut se vérifier.
IMDB.
Vas-y, va vérifier. Et il fait également les voix dans la version originale, bien sûr, de Lucas. Il fait une voix dans Lucas Fourmi malgré lui, dans Dora l'exploratrice. C'est dans Dora qui joue le rôle du grand-père. Hein, je me suis planté, quoi. C'est ça, quoi. Puisque le papa de Dora, c'est
C'est Robert Foster dans Spy Kids 2 et 3.
Non. C'est dans Dora l'exploratrice qui joue le rôle. Il joue la voix. Il fait la voix du grand-père de Dora. Le papa étant John Leguizamo, bien sûr. Et on a également Edward Joel James Olmos dans Dora l'exploratrice, mais dans la version originale, hein, bien sûr. Il joue également il fait également une voix dans Kim Possible. Ça, c'est un truc Disney. Et un truc dans Buzz l'éclair également. Hein, de tout ça, donc c'était Ricardo Montalban, et lui, bah c'est sûr qu'il va se faire éclipser à mon avis sans problème par la mort de Patrick McGowan. Et pourtant, statistiquement, la carrière de Ricardo Montalban, eh ben on peut dire qu'il a tourné, il a travaillé toute sa vie depuis le début des années 40 sans interruption, alors que Patrick McGowan, qui au contraire de ce que beaucoup de gens croient, n'est pas britannique. Il est né à New York en mars 1928.
C'est comme Kubrick, tout le monde pense qu'il est anglais.
Ouais.
Hein? Oh, Kubrick, il est américain aussi.
Kubrick est américain aussi. Oui. Ouais.
D'accord, bon, ben
voilà. Ok.
Oh, on a cassé 2 mythes de JB aujourd'hui.
Les poules. Deux d'un coup, Patrick McGowan, italo-américain, irlando-américain, bien entendu. Donc, il est connu, surtout, bien entendu, pour Le Prisonnier. On a passé le truc juste avant. Mais il faut savoir qu'il faut remonter.
Juste avant, parce que je peux pas transmettre l'ordi à JB, je confirme. J'y confirme pour Montalban dans Spy Kids 3D, Spy Kids 3. Où
mais il jouait pas le rôle du grand-père.
Il jouait pas le rôle du grand-père parce que.
Si, c'est marqué Grandfather.
Qu'est-ce que jouait Robert Foster dans.
Je ne sais pas, c'est en sujet, tu viens de te prendre un troisième gadin.
Ou alors, il y a un autre grand-père.
Non, tu viens, attends, on coupe le truc d'Odus là.
Attention, ça va se jouer à côté de la régie.
Donc revenons-en.
Bon accent de JB qui.
Revenons-en à Patrick McGowan. Donc, il est surtout connu pour ses talents d'acteur, on va dire, parce qu'il commence quand même au cinéma dans L'Armure Noire en 55 de Henry Levin, également dans The Gypsy and the Gentleman de Joseph Losey en 58. Il a également tâté du cinéma, bien entendu, et c'est au début des années 60 qu'avec la sortie de la série anglaise de Danger Man, autrement dit chez nous Destination Danger. C'est là que ça marche vachement mieux parce que la série dure relativement longtemps. Et c'est d'ailleurs pendant quelques tournages de cette série qu'il a repéré, la localité de Port Merion où est située entièrement l'action du Prisonnier parce que ils avaient tourné quelques épisodes dans série Danger Man. Le Prisonnier, tout le monde connaît à peu près l'histoire, les 17 épisodes mythiques toujours cette question en suspens. Un petit peu par la suite, il se rendra également célèbre avoir obtenu un Emmy du meilleur acteur, c'était pour deux Emmy quoi, pour meilleur acteur dans une série télé, et c'était à chaque fois pour des épisodes de Columbo, le premier en 75, le deuxième en 90.
Il fait deux méchants, hein, c'est ça?
Non, il réalise.
Et il réalise également.
Il a réalisé ces épisodes.
Il réalise et
Et joue dedans.
Et en fait, il en a fait plus que ça. Hein, il en a fait 3 ou 4, me semble-t-il. Quoi, Patrick McGowan, hein, réalisé, écrit, réalisé et interprété par McGowan en face de Peter Falk. Mais il a quand même obtenu, c'est la moindre des choses, 2 Emmy pour en étant le meilleur acteur. Et c'est assez marrant parce que chaque fois à 15 ans d'écart, 75-90, et 15 ans auparavant en 1960, c'est-à-dire au début de la série Destination Danger, il a obtenu le BAFTA du meilleur acteur, l'équivalent des Oscars mais
en Angleterre.
Voilà, en 1960. Donc faut aussi savoir que par rapport à l'agent secret qu'il jouait dans Destination Danger, on lui propose le rôle de James Bond dans le Dr No, donc le premier James Bond, un rôle qu'il refuse parce qu'il trouve que l'état d'esprit de l'agent secret James Bond est un petit peu éloigné de ce que lui pense vraiment du métier d'acteur et du métier d'agent secret, pardon. Et donc il refuse ce rôle, mais il se rattrapera quand même un petit peu par la suite parce que il a quand même fait quelques petites apparitions, on va dire, hein, après après l'épisode Le Prisonnier. Destination Zebra, station polaire de Sturgess en 68, Transamerican Express de Arthur Hiller en 76, un génie de associer une cloche, je vous l'avais raconté.
Non, non, c'est pas vrai.
si, il joue le rôle du colonel dans le film. Damiani en 76, L'évadé d'Alcatraz où il joue le rôle du chef de la prison face à
voilà.
Clint Eastwood.
C'est ce qui est quand même une preuve d'humour de la part du prisonnier, voilà.
C'est le Don Siegel. Si, c'est le Don Siegel de 79. Il est bien celui-là en plus.
Oui.
Il y a Scanner aussi, quoi, bien sûr.
Oh là là.
Hein, on se rappelle avec Michael
Ironside. Le père des mutants.
Ouais, non, mais bon. Il joue également le rôle du roi Edward dans Braveheart, hein, de Mel Gibson. Il joue également un rôle dans Le droit de tuer de Joel Schumacher, ça on laisse tomber. Et dans Le fantôme du Bengale également. Hein, c'est histoire de faire un petit peu d'argent. De toute façon, quoi, Patrick McGowan. Je vous ferai encore un petit topo un petit peu plus tard dans le programme télé parce que je sais pas si c'est de l'opportunisme ou alors si c'est un hasard de la programmation, hein, mais Danger Man, on va pouvoir le voir à la télé pas plus tard que la semaine prochaine,
parce que c'est il a pas été diffusé très souvent, lui, hein. Comme Le Prisonnier, c'est une série mythique.
Alors,
parce que pas beaucoup diffusé en
alors
fait. Oui, mais c'est parce que c'est en noir et blanc aussi, c'est ça le problème, quoi.
Bon, je suis pas d'accord.
Justement, NRJ 12 nous avait planté comme des gros cons
ils ont l'habitude.
13e ou 14e ou 12e épisode du Prisonnier, ils
sur
ont
17.
Recommencé. Ils ont recommencé. Ils ont recommencé Le Prisonnier à un autre horaire, à un autre jour de la semaine. Où ça en est? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Du sport?
Oula,
c'est
j'en
à toi.
Rien du tout. Voilà.
Avec eux, moi, je ferais pas le pari. Mais si t'appelles le PSG, là, tu demandes le directeur artistique du maillot, il a peut-être une chance de te répondre.
J'ai pas compris.
Bah, c'est l'ancien directeur des programmes de la radio Énergie, donc. Et il est plus ou moins inculpé dans l'affaire NRJ 12, la télé de merde, pour le traitement. JB, toi, tu as rien à dire?
Non, je préfère me taire sur le coup.
Oui, parce qu'il s'est pris 3 vents tout à l'heure, et là, il a peur.
Non, mais je t'avouerai, cette semaine, j'ai fait que du Java, et j'ai pas eu le temps de faire autre chose que ça.
T'apprendras à faire de la Java, tiens.
Ouais.
Du Java.
Allez, on va parler cinéma encore un peu.
Ouais, on parle du cinéma.
Vas-y.
avec les résultats des Golden Globes.
Il n'y a pas que le cinéma. Hein,
la surprise, quand même, dire que c'est quand même une surprise, hein, c'est Danny Boyle qui rafle 4 prix, hein, meilleur film, meilleur réal, meilleur scénariste, c'est-à-dire Simon Beaufoy, meilleure musique à R. Rahman. Pour le Slumdog Millionnaire, donc ça peut le faire et tout. On dit que le film s'éloigne un petit peu du bouquin dont il est tiré et que il y a quand même quelques clichés qui subsistent dans ce film de Danny Boyle concernant sa vision de l'Inde et de, je crois que c'est Mumbai, hein, c'est Bombay, hein, que ça a été tourné. Donc, mais ça reste à voir. Les autres gagnants acteurs pour un film dramatique, Mickey Rourke pour The Wrestler, le film de Aronofsky. L'actrice, c'est Kate Winslet pour Revolutionary Road. Et du côté des comédies, c'est du film comique, c'est Colin Farrell qui a obtenu le prix pour Bon Baiser de Bruges. Et Sally Hawkins pour Happy Go Lucky. Et du côté des second rôles, Kate Winslet, hop, et que je t'en emballe un deuxième pour The Reader.
I'm so happy, I'm so surprised, excuse me.
Ah ouais. Ouais. Et c'est sans surprise, hein, de toute façon, second rôle, quoi, masculin à Heath Ledger, bien entendu, pour Dark Knight.
C'était second rôle ou rôle dans un film dramatique?
Second rôle, quoi.
Second rôle?
Ouais.
Ah tiens, bizarre.
Du côté des films d'animation, c'est Wall-E qui a obtenu le. Bon, ça, on s'attendait quand même un petit peu. Hein. Et du côté de la télé, c'est pratiquement ni plus ni moins que la répétition des derniers Emmy Awards, hein, qui avait lieu il y a 2 mois ou 3 mois, je crois. Hein. C'est pratiquement la même chose. 30 Rock en max, un max. Tina Fey, il n'en a eu qu'un, mais c'est déjà pas mal. Hein, je veux dire, ça en fait un de plus, quoi. Meilleur acteur, Alec Baldwin, et meilleure série comique, 30 Rock. Et du côté des mini-séries, John Adams qui rafle également le gros lot avec meilleure mini-série, meilleur acteur, c'est Paul Giamatti, meilleure actrice, Laura Linney, meilleur second rôle, Tom Wilkinson, bref, n'en jetez plus, allez, ça va. Et un petit lot de consolation pour Gabrielle Byrne, dans le trophée du meilleur acteur qui avait été nommé aux Emmy mais qui l'avait pas eu pour In Treatment et dans meilleure actrice.
C'est une série quotidienne, attention, sur HBO.
Voilà, c'est ça, hein, qui parle et, de psychanalyse, de petites choses comme ça et tout. Mais bon, c'est un petit peu rigolo quand même.
Ça dure combien de temps l'épisode?
25 minutes.
C'est des 25 minutes. Ouais.
25 minutes en quotidien, c'est chaud.
En quotidien sur 9 semaines.
Alors, meilleure actrice, enfin, c'est Anna Paquin pour True Blood. Voilà pour les Golden Globes 2009. Et qui ne préfigure pas vraiment, je pense, hein, ce que va être les Oscars dans un mois, et demi. À mon avis, bof quoi. Enfin bon, on verra bien quoi. Du côté des brèves, alors ça va t'intéresser à fond les manettes. C'est Matt Smith, 26 ans, qu'on a vu dans les aventures de Sally Lockhart, qui reprend le rôle de David Tennant dans Doctor Who à partir de l'année prochaine.
On attend ça avec beaucoup d'impatience.
Parce que Tennant, il a un petit peu ras le cul. Bon, je dis,
ne suis pas du tout.
Il n'y a pas que ça. Il a eu un problème de santé. Il avait du mal en même temps à concilier les séances, puisqu'il joue en même temps le roi Lear, hein, avec le capitaine Picard, s'il vous plaît. Hein, donc en ce moment à Londres sur les planches. Et comme il a eu des problèmes de santé, il a pas pu faire toutes les séances. Du coup, ça retarde en même temps la production de la série. Donc il a souhaité en partir. Il le dit qu'il a fait avec regret.
Mais comment ça se fait qu'il est tenu aussi longtemps alors que tradition de Doctor Who, c'est une saison chacun?
Non,
c'est pas une tradition.
Non.
Celui qui a tenu le plus longtemps, je crois que c'était 9 saisons dans les années 70.
8 ou 9, ouais.
Ah, c'est juste avec Eccleston qui est un gros feignant.
Il croyait qu'il aurait un meilleur rôle dans Heroes.
Ah oui, l'homme invisible, d'accord.
On peut pas dire qu'on l'a beaucoup vu.
Ensuite, une autre petite brève qui concerne Game One, hein, qui va diffuser prochainement l'épisode inédit de South Park, réalisé à l'occasion de la victoire de Barack Obama. Ça sera le 30 juin prochain, donc les mecs, ils sont bien opportunistes sur le coup.
Il est déjà disponible.
Le 30 janvier prochain à 20h35, donc sur Game One.
Il est déjà dispo sur le site South Park Studios.
Ouais, mais c'est pour les feignants qui n'ont pas envie de télécharger.
C'est pas téléchargé, si tu le regardes en stream, et t'as même les sous-titrages anglais.
Et blanc.
Du côté des inédits, une seule série inédite cette semaine, mais à regarder quand même, c'est Six Degrees, une série initiée par le monsieur tout le monde, dès qu'il rentre chez des patrons de studio, les mecs l'accueillent à bras ouverts, lui disent yes, tout de suite, on signe et tout, c'est J.J. Abrams. Ah. Avec Six Degrees, on peut dire que il a un petit peu connu l'échec quand même, vu que la saison de 13 épisodes sur ABC n'a pas tellement convaincu et donc la série a été annulée. Mais c'est quand même l'occasion pour nous de découvrir ces 13 épisodes. Ce sera à partir de demain soir sur Série Club à partir de 20h45 avec Erika Christensen, Campbell Scott et Bridget Moynahan.
Tu nous avais parlé, je crois, d'il y a une semaine, deux semaines, d'une autre série de J.J. Abrams, là.
Fringe. Ouais, mais qu'on verra certainement un peu plus tard, hein, qui a cartonné aux États-Unis, qui est, dont le pilote a été le pilote le plus cher de l'histoire de la télé au niveau pilote. Il a battu son propre record qu'il avait établi avec Lost. Mm-hmm. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles le pilote de Lost, hein, c'était quand même un truc assez monstrueux. Là, il a battu le record et il y a un minimum garanti de je sais pas combien de millions de dollars par épisode fabriqué, donc ce qui veut dire que ça a l'air de bien cartonner. Une seconde saison est déjà en tournage, enfin bon, ça roule à fond. D'accord. Mais pour l'avoir en France, alors là attention quoi. Et sous quel traitement, ça va être encore la lutte des grands chefs entre TF1 et Canal+ à mon avis. Donc
alors moi j'ai une question concernant la série NCIS.
Mais ça a l'air très appétissant, hein, de toute façon. Ouais.
Parce que la semaine dernière, bon là il y avait le dernier épisode de la saison hier soir, si j'ai bien compris. On a regardé, vous m'aviez dit la semaine dernière qu'il y aurait une disparition en plus de la chef qui était crevée. Alors, quid ? Parce que là, hein, non, en fait.
Il a dit la semaine dernière que la directrice avait été tuée la veille. Oui. Alors que c'est ce qui s'est passé hier soir, vraisemblablement.
Non, la directrice a été tuée la veille, effectivement, de samedi dernier.
D'accord.
Et vous m'aviez dit qu'il y aurait encore une disparition. Et pas du tout. Vous avez menti.
Mais pourquoi tu me regardes à moi,
Oui, parce que t'as confirmé.
Fallait pas.
Ok, j'ai compris. C'est ma journée.
Je me barre. Je crois qu'on tient le générique d'intro pour le numéro 185. Voilà.
Fermé. De toute façon, c'est fini, hein. De toute façon, le vendredi soir, à partir de vendredi prochain sur M6, ce sera la saison 3 de Bones. Ah ouais, bah c'est rigolo, c'est chiant, ça se regarde bien. Mais par contre, je pense que M6 se fait bien également quand elle nous diffuse la saison 3 de The Unit à partir de mardi prochain. 23h, hein, comme c'est du...
tardif, hyper tardif.
Ouais, ouais, comme c'est du lourd quand même, faut pas déconner avec ces choses-là. Destination Danger, on en a parlé juste avant, donc c'est une série donc qui a duré vachement longtemps, de 60 à 68, diffusée sur ITV, créée par Ralph Smart.
Moi, j'ai comme quoi, il y a eu deux saisons.
Non, parce que faire 39 épisodes de 30 minutes, puis 45 épisodes de 50 minutes, et même deux épisodes de 50 minutes en couleur, les caser en deux saisons, c'est un petit peu difficile, c'est très difficile d'ailleurs. C'est diffusé dès 1961 sur la télé française, hein, à l'époque avec une chaîne, de toute façon quoi, c'était la RTF. Ça raconte donc les histoires de John Drake, un agent secret de l'OTAN qui après change un petit peu, il appartient après au gouvernement britannique via le M19. Et alors c'est comme James Bond, c'est-à-dire que il a plein de gadgets, de petits trucs et tout, et c'est également un petit peu MacGyver parce que des fois il doit se démerder sans rien. Il doit improviser à fond les manettes et tout, parce que on le largue comme ça, claque, démerde-toi. Il va dans d'autres pays, hein, il reste pas qu'en Angleterre, aux États-Unis, il va également à Rio, il va également du côté de Hong Kong, je crois, enfin un petit peu partout dans le monde. C'est normal, c'est un agent secret. Et ce qu'il a, c'est que faut replacer les choses dans le contexte historique de l'époque, hein, c'est 1960. Donc c'est la pleine guerre froide, à fond les manettes et tout quoi. C'est pour ça qu'il est agent de l'OTAN, bref. Et donc il y a la menace du communisme qui est quand même un petit peu sous-jacente, on va dire, bien que lui s'en défende, c'est-à-dire il s'en défend pas ouvertement dans la série, mais ce n'est pas un suppôt du capitalisme et des fractions avancées contre le communisme, non. Il fait son boulot honnêtement avec un sens moral très élevé et tout quoi. Il préfère justement certaines valeurs humaines, humanistes aux idéologies qui sont sous-jacentes quoi dans la série, et de par le fait qu'il est employé d'un gouvernement bien entendu. Et donc ce qui en fait un truc vraiment très très sympa et tout quoi, à tel point que beaucoup de gens ont cru je vous en parlais là il y a pas si longtemps que ça, que John Drake c'était vraiment le mec qui était devenu le prisonnier par la suite et tout quoi. Il y a même eu un épisode dans Destination Danger où justement il pose un petit peu le problème. Bon là c'était les scénaristes, hein, c'était pas lui, il pose le problème, j'ai envie de m'arrêter, j'en ai ma claque maintenant, pourquoi, tagada et tout, un épisode qui ressemble un petit peu à ce que va devenir un petit peu le prisonnier. Il faut savoir que de toute façon la genèse du prisonnier, c'est-à-dire l'écriture la genèse à partir d'une discussion avec George Markstein, un auteur de polar, sur cette idée d'agent secret qu'on envoie un petit peu à la retraite dans un lieu de repos et tout, histoire de se ressourcer, de faire des petites choses comme ça et tout quoi. Ça remonte à pendant ces années de tournage et de diffusion de Destination Danger. Donc ça a été fait un petit peu en amont quand même. Et Destination Danger est donc regardable sur Orange Ciné Géant à partir de vendredi prochain. 21h. C'est en noir et blanc, hein, mais ça vaut quand même vachement le coup, hein. C'est vraiment très très bien. Moi, je me rappelle.
45€ d'ADSL, 5€ de location de boîtier, 25€ d'abonnement.
T'as tout compris.
Voilà.
Eh ouais. Eh ben, on revient à la TNT, alors, avec TF1 qui vous diffuse ce soir. Alors, c'est fini, les épisodes inédits de New York UTD spécial, donc ce sont des rediffusions. Le premier, par contre, vous pouvez vous en dispenser parce qu'on l'a déjà vu, bien sûr, de la saison 6. Mais par contre, le deuxième, il est encore regardable à chaque fois. Moi, ça fait deux fois que je le vois, à chaque fois, je le trouve excellent. L'insoutenable, c'est le titre de cet épisode. De la saison 6, donc le quatrième, avec Jeff Cober qui joue le rôle d'un chef de secte et tout, espèce de gourou et tout. C'est absolument magnifique, c'est excellent, c'est très grand de toute façon. Donc c'est ce soir à partir de 1h30 quand même, hein, c'est-à-dire après le premier. Ensuite, on termine avec quelques petits films. Là, je vous avais fait toute la semaine sur RTL9, mais on va pas avoir le temps. Ça va être
juste
un petit peu.
Il est 13h15.
Il y a juste précisé, lundi soir sur TMC, il y a Total Recall.
Ouais.
Bon, après, je sais que tout le monde l'a vu 15 fois, mais bref. J'ai pris un bide.
Mais moi, c'est un petit peu pareil parce que les films de la semaine, c'est les films sur RTL9 qui nous diffusent vraiment des films. Souvent, tu les as déjà vus et tout, mais ça fait plaisir de les revoir, revoir quelques séquences, des trucs comme ça. Alors ça commence ce soir avec un super classique vachement bien, hein, tiré d'un bouquin vachement bien de Robert Merle, Weekend à Zuidcote de Verneuil en 64 avec Belmondo, Catherine Spack, Georges Géret, Jean-Pierre Marial, j'en passe et des meilleurs, c'est vraiment beau, c'est magnifique, c'est excellent. À 23h25 après le catch, non après le poker, c'est le samedi, c'est le poker sur RTL 9. Les Brutes dans la ville de Robert Parrish et Yvonne Lerner en 71, c'est un western hispano-anglais avec Robert Shaw, Stella Stevens, Martin Landau, Telly Savalas, oh, Michael Craig.
Oh.
Vas-y mon gars, ça y va, c'est ce soir sur RTL 9 à partir de 23h35. Et je sais pas si vous avez noté, mais RTL 9 au niveau des horaires du soir s'est mis à la même heure que France Télé. France Télé. Le début des films, c'est à 20h35.
Même TF1 qui s'est défendu de toucher au JT, il ne s'arrête plus à 20h35, il s'arrête à 20h28.
Eh ouais.
Ils avaient dit, non, jamais on y touchera. Tu parles.
Alors, demain sur RTL9 à 20h35. Alors demain soir, c'est la soirée bon film de baston qu'on a déjà vu 50 fois, mais ça fait plaisir les revoir.
On vient de regarder le programme
avec L'Ombre Blanche, James Gray en 96,
ouais.
Keenan Ivory Wayans, il est regardable celui-là. Bob Gunton, Brian Cox.
Oui, c'est pas James Gray, attention.
C'est John Gray. James Gray, c'est quelqu'un d'autre.
John Gray. Ouais, t'as raison. Et à 22h10. Los Angeles 2013 de Carpenter,
Call Me Snake,
Kurt Russell, Stacy Keach, Steve Buscemi, Tom Waits, George Corafa sans se demander ce qu'il fout là, mais bon,
Pam Grier,
ouais, Pam Grier, enfin bon, laisse tomber, c'est bien. Bon, il est vachement caricatural, mais il fait quand même vachement plaisir à regarder, quoi. Il y a pas de problème.
Et cette fin.
Ah oui.
Il est jubilatoire.
Alors lundi à 20h35, randonnée pour un tueur, un Spottiswoode de 88 qui est pas dégueulasse, avec Sidney Poitier, Tom Béranger, jeune, Kirstie Alley, jeune, Clancy Brown, jeune, et Richard Mazur,
jeune.
Pour faire le pendant au niveau gueule burinée, quoi, avec Clancy Brown, ils ont mis Richard Mazur, parce que bon, c'est comme ça le fait mieux, quoi. Et à 22h35, une série qu'on n'a pas vu, que j'ai pas vu passer sur Syfy, pourtant je crois qu'elle avait été programmée, c'est Les Maîtres de l'horreur, dans le même style que Les Maîtres de la science-fiction, avec deux épisodes, le premier, Le Cauchemar de la Sorcière, mais attention, Les Maîtres de l'horreur, c'est -16, c'est-à-dire que c'est c'est dû un peu chaud quand même. Le Cauchemar de la Sorcière avec Ezra Godden et Suzanne Bain. Et La Danse des Morts avec Jessica Lowndes, Jonathan Tucker et Robert Englund.
Mais c'est le fameux Masters of Horror.
Oui, c'est Masters of Horror.
Oui, mais ça avait été diffusé sur Canal avant.
Sur Canal, donc ouais, c'est ça. Je savais pas si c'était sur Syfy, mais je savais que ça avait déjà été programmé.
Celui avec Englund, c'est par le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, Toby Hooper, non?
Peut-être.
C'est pas marqué, mais si je me souviens bien, c'était ça.
Mardi, toujours sur RTL 9, 20h35, La Famille Folding de Peter Segal avec Eddie Murphy, Janet Jackson, Larry Miller, et Richard Gant. Suivi de à 22h40, American Dragons de Ralph Emeke. C'est à -12 avec
Baston.
Michael Bean, avec Park Young-hoon, Byron Mann et Kari Hiroyuki Tagawa.
Alors,
ça le fait.
Est-ce qu'il a fait un gentil, lui, dans sa vie?
Oui, c'est le patron de Don Johnson dans la nouvelle série, comment ça s'appelle?
Nash Bridges. Ah bon?
Oui, c'est lui le patron, lui.
Oh merde.
C'est le patron de la brigade. Pour une fois que c'est pas un black, ils ont mis un asiatique, patron de la brigade.
Ah merde.
Quand ils mettent pas un latino qui fait un peu trop asiatique.
Ah voilà, j'ai oublié parce qu'il y avait également une troisième disparition, mais un petit peu la semaine dernière. C'est la mort de l'acteur dont j'ai oublié le nom, qui jouait le capitaine Dobé dans Starsky Hutch. Dobé est mort également. Quoi.
Il en avait marre d'hurler.
Et vous avez remarqué comment nous avons honteusement passé sous silence la mort de Claude Berry ici.
Oui, non, mais Claude Berry, voilà.
D'accord.
On rappelle les mauvais films qu'il a produits plutôt que ce soit
bien. Alors, des bons aussi.
Ouais. Attends, quand même quoi. On continue. Il y a pas de Claude Berry au programme de RTL 9. Mercredi 20h35, Beauté fatale de Tom Holland avec Whoopi Goldberg, Sam Elliott, Ruben Blades et Harry Yulin, suivi de Ultimate Fighting Championship à 22h50. Ça c'est du -16 parce que c'est de l'Ultimate Fighting, hein, donc. Et c'est en direct. Jeudi, un excellent polar du scénariste qui signe là sa première réalisation en tant que réalisateur, donc scénariste de du co-scénariste avec Brian Singer de Usual Suspect,
Christopher McQuarrie
de Way of the Gun, avec
the
Benicio del Toro, excellent Ryan Phillippe qui pour la première fois, c'était en 2000, trouvait là un bon rôle et sortait un petit peu du rôle de Bellâtre dans lequel il était confiné. Et il joue vraiment
attention.
Bien. Ouais, par exemple. Il y a également Scott Wilson, Juliette Lewis, James Caan, magnifique et tout. Donc c'est vraiment très bien, excellent, excellent quoi.
Ouais, ça donne envie.
C'est un polar un petit peu dans la veine qui se foudrait un petit peu du Peckinpah, tu vois quoi, avec une fin bien bien westernienne et tout quoi. Mais bon, c'est vraiment très bien quoi. Moi ça m'a très agréablement surpris ce film. Donc suivi donc jeudi prochain à 22h40 de Puissance Catch. Ouais. Et on termine avec vendredi à 20h35, Calendrier meurtrier, un film de Pat O'Connor avec Kevin Klein, Susan Sarandon, Marie-Elisabeth Mastrantonio et Harvey Keitel. Un petit polar qui est sympa parce que bon, il y a des retournements de situation, des choses comme ça quoi. Tu te laisses prendre et tout quoi, c'est vraiment très très bien foutu. Ça vaut le coup quoi, l'histoire d'un tueur qui va choisir des dates au hasard et puis un petit peu comme ABC contre Hercule Poirot, mais là ça c'est des dates, c'est pas des lettres, tu vois quoi. Et c'est bien quoi, c'est vraiment pas mal. Suivi de du Miroir du désir de Servemont à 22h30-16 avec Julia Austin, Clara Mars, Patrick Hamel, Laurence Leroy et Don Martin.
J'adore comment sa voix change quand il traite les filles porno.
C'est de l'érotique.
Soft.
Voilà. Ah, c'est marrant, t'as pas dit que du naturel.
Ouais, mais je connais pas trop, tu vois.
Ah, plus
96, laisse tomber, quoi. C'est pas la peine. Laisse tomber, là.
Et c'est ainsi que nous passons à littéralement autre chose.
Non, non, machin, ça y est pas marqué.
Ah, bah oui, bah il faut que tu prennes sur le résumé de Thomas.
Ah, Thomas, passe-moi ton résumé parce que je pense pas que je l'ai. Évidemment, Thomas, donc évidemment, peux-tu nous faire le résumé de ce pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route hein.
Oui, tout à fait. Sur la même feuille, oui. Alors, on a eu l'agenda culturel de la bande dessinée Pas pour les pitis avec de la religion et des femmes à poil. Du catcheur mexicain versus l'armée nazie. Du film graphique avec un juste. Non, juste un film avec Eva Mendes. De Nécro de Montalban et Magohan. JB fait la Java en semaine. JB se fait chahuter. C'est la fête de JB et JB veut se barrer d'ailleurs. Je ne sais pas. Je me suis pris un bide avec mon Vérovan à la télé et on a eu la semaine sur RTL9.
Nom d'un numéro 6, mais par rapport à ce qu'a marqué Xavier, ils ont marqué tout ça. Oui, eux aussi, ils ont marqué tout ça. Il va te saloper ton boulot. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver des chroniques écrites fouillées dans nos archives, jouer des quiz stupides, laisser vos commentaires stupides, poser vos questions stupides. N'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et en continu sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, Xavier.
Dans le prochain épisode, notre speakerine préférée va devoir faire beaucoup d'efforts de prononciation et va donc entamer un stage de lecture intensive. Elle va commencer avec Martine fait speakerine à l'ORTF. De même que nous espérons avoir, je sais pas, peut-être un petit sujet concernant le Festival du Livre Jeunesse qui a lieu le week-end prochain à Saint-Aurens. L'entrée est gratuite et libre, samedi et dimanche de 10h à 19h, en gros. Et on commencera aussi à parler du Festival des Cultures d'Asie Made in Asia, juste avant de commencer à donner the big, the gros, the méga énorme, the super balèze programmation du festival de la ville d'Angoulême pour le Festival International de la Bande Dessinée, 36e du nom, avec une présidence bicéphale. Et oui, deux présidents valent mieux qu'un, des fois, pour occuper les médias.
C'est quoi, c'est Dupuis et Berbérian ?
Oui, c'est le Dupuis et Berbérian. Tu peux le dire sans bailler, on comprendra mieux.
C'est dur, le boulot.
Tu parles. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye bye.
Ciao. Salut.
Et de suite, c'est du sport.